Donc, merci pour avoir accepté ce changement. Et on va tout de suite vous passer la parole sur la présentation d'un atelier de dramathérapie. Je vous laisse la parole. Merci.
Bonjour à tous. Et bienvenue à tous aussi dans notre univers de dramathérapie. Alors, notre exposé va se faire en trois temps. Une présentation générale de notre dispositif et un diaporama illustrant nos propos, pour ensuite terminer par la présentation d'une vignette clinique présentée par mon collègue Georges Condo, qui est psychothérapeute clinicien. Voilà, et moi-même, je suis Christine Baldaquin, donc qui suis éducatrice spécialisée. Alors, nous intervenons tous les deux au sein des Hirondelles, l'IRS de Provence, qui fait partir de l'IRSAM, dans une section de jeunes sourds avec handicap associé, la CEDAA. Alors, notre atelier de dramathérapie, dans notre atelier, nous accueillons des enfants avec une surdité moyenne ou profonde. Alors, nous accueillons des enfants qui sont implantés. Nous accueillons aussi des enfants avec des troubles sévères du langage. Nous sommes aussi confrontés à des syndromes lourds et importants. Nous rencontrons le syndrome de Noonan, le syndrome de Bohr, le syndrome 4XY. Nous sommes confrontés aussi à la dysphasie, à des troubles du comportement et à la psychose. Or, tous les enfants ont aussi une déficience intellectuelle plus ou moins importante. Nous avons mis en place cet atelier de dramathérapie depuis déjà quelques années, et d'abord avec des adolescents et jeunes adultes, et plus récemment avec des enfants de 7 à 11 ans. Donc c'est cet atelier-là que nous allons vous présenter, parce que chaque atelier de dramathérapie prend sa forme avec les enfants que nous accueillons. Cet atelier est né de deux compétences, celle du théâtre et celle de la thérapie. Mais il est surtout né aussi d'une envie, d'un désir, je dirais, d'une envie, d'un désir commun, c'est-à-dire celui de créer un espace pour que des enfants avec des pathologies lourdes et de grandes carences puissent naître. Les enfants donc de cet atelier utilisent une communication qui est soit orale, soit gestuelle, et ils ont besoin d'un accompagnement thérapeutique spécifique pour pouvoir faciliter leur expression et pour construire leur identité, et bien sûr en harmonie avec leur handicap. Alors, le choix des enfants de l'atelier émane d'échanges en équipe pluridisciplinaire. Et ils sont au nombre de 6. Donc l'objectif aujourd'hui est de repérer et de vous présenter les effets thérapeutiques de cet atelier. Donc nos ateliers prennent vie, comme je vous l'ai dit, avec les enfants et évoluent aussi avec eux. Donc il s'agit d'une co-construction, et cette co-construction est articulée à un cadre repérable. Et c'est pour cela que ce dispositif prend alors une dimension thérapeutique. Donc l'atelier de dramathérapie se base sur les techniques de mise en scène théâtrale et aussi sur les techniques du jeu de rôle. Et vous avez la définition ici de la dramathérapie. La dramathérapie est l'usage intentionnel du théâtre afin de favoriser un processus thérapeutique. Elle permet d'élargir le répertoire des rôles et d'éprouver la bonne distance relationnelle. Alors, nous souhaitons favoriser et faciliter une expression et une circulation des figurations produites et bien sûr des représentations. Le niveau groupal permet un travail de symbolisation. Chez l'enfant, bien sûr, des liens vont pouvoir être faits et être mis en exergue par les thérapeutes. Au niveau individuel, c'est-à-dire le sujet, au niveau intersubjectif, entre les enfants eux-mêmes, au niveau groupal, c'est-à-dire les enfants, les thérapeutes et le cadre, c'est-à-dire le dispositif que nous proposons, vous allez le voir plus tard. Le collectif, donc ça c'est au niveau des équipes, parce qu'il y a des échanges qui sont faits au niveau des équipes, des retours par rapport à ce que l'on vit avec les enfants, et aussi au niveau institutionnel. Alors là, au niveau institutionnel, on entendait la place que nous donne l'institution, et cette place-là, ça a un impact. Il y a un impact de l'institution sur le dispositif et par voie de conséquence sur les enfants. Alors, le dispositif lui-même, je vais vous le décrire. Nos rencontres donc se déroulent une fois par semaine et dans une salle réservée. C'est une salle qui est vraiment réservée qu'aux séances de dramathérapie. Ça, c'était important pour nous. Et cette salle a été décorée avec les enfants. Alors, nous avons une frise du temps. Quand vous rentrez dans la salle, vous pouvez repérer ce genre de choses. On a une frise du temps sur le mur et sur laquelle les enfants apposent leur signature, leur nom, en signant quand ils arrivent. C'est un des premiers points du dispositif. Un espace acteur avec une scène et un rideau rouge au mur. Ça aussi, vous pourrez le voir sur les diapositives que l'on vous présentera ensuite. Un espace spectateur avec des places qui sont attribuées à chaque enfant. Un espace de restitution avec une télé pour visionner les photos prise lors de chaque mise en scène. Une armoire avec un coussin à l'intérieur pour garder et protéger les objets que les enfants amènent. Voilà. Là, vous avez le cadre. Donc, le déroulement maintenant de chaque séance. Nous avons une première étape. Alors, avec un travail sur la constitution de l'enveloppe groupale. C'est indispensable pour mener ce type d'atelier. On ne peut pas commencer s'il n'y a pas un travail sur le groupe, une constitution du groupe. Donc, on met en place des rituels, comme le rituel de la signature dont je vous ai parlé, un rituel du bonjour, où chacun s'accueille, se salue. Et ensuite, il y a un jeu sur la scène. Et puis, il y a plein d'autres petits rituels que l'on met pour terminer notre atelier, etc. On met en place des rituels. Nous partons du récit d'une histoire ou d'un conte, ou alors on peut aussi partir d'un thème qui est assez récurrent chez les enfants, un thème qui revient souvent, quelque chose qui nous amène régulièrement, on s'en saisit. Ou alors ça peut être aussi à partir de la rencontre d'un objet que l'on dépose sur scène. On peut déposer un objet, ils peuvent le découvrir, et à partir de là, on peut déclencher le jeu. Différentes figurations sont possibles sur scène. Les enfants, et ça on y tient, ont une liberté de jeu. Les acteurs rentrent successivement sur scène et doivent intégrer et partager le jeu des autres. Nous pouvons aussi jouer avec eux. Nous prenons des photos de la mise en scène. Le jeu se termine par un déroling. Alors c'est les enfants qui se défont de leur rôle et pour réintégrer leur identité. C'est très important avec les pathologies que nous rencontrons, que les enfants puissent se défaire de ce rôle. Ensuite, à la suite de ce jeu, nous provoquons des échanges qui se passent hors scène sur ce qui a été joué et sur ce que les thérapeutes ont vu. Des retours sont faits aux enfants. Après chaque séance, nous prenons un temps. Et c'est un temps très important pour nous. C'est un temps de prise de notes. On se retrouve tous les deux. Et donc, on a un temps d'analyse, d'hypothèse, de perspective sur les séances à venir. Et ça aussi, c'est ce qui fait partie du dispositif et qui permet que nos interventions soient thérapeutiques et prennent une dimension thérapeutique. Lors de la rencontre suivante, nous visionnons avec les enfants les photos prises précédemment. Ils peuvent reconstruire leur histoire avec de nouveaux retours, et des retours que nous leur faisons, et cette fois-ci des retours renforcés, bien sûr, par les analyses que nous avons pu élaborer lors de nos rencontres. Alors, nous prévoyons aussi une seconde étape dans ce dispositif, mais c'est quelque chose qui n'est pas encore mis en place avec ce groupe-là. Ça, c'est un dispositif qui travaille sur les contenus individuels. Ça sera une autre étape de nos interventions sur ce groupe d'enfants. Un petit exemple rapide, c'est que chaque séance sera consacrée à un enfant. Il amènera, lui, une petite histoire qui sera consignée dans un cahier, puis jouée par les autres enfants, par ses camarades. Et c'est ce même enfant qui choisira les acteurs et qui distribuera les rôles. Les adultes pourront aussi être choisis pour jouer dans le scénario de l'enfant. Et là, comme dans la première étape, il sera indispensable et incontournable de faire ce travail de restitution que nous menons régulièrement. Alors, dans ces deux étapes, ce qu'on peut dire, les séances se déroulent en deux temps. Il y a le jeu et la restitution. Ça, c'est quelque chose de très important. Donc, dans ce second temps, le temps de restitution, les enfants sont invités à reprendre sous une autre forme ce qu'ils ont joué. C'est cette transformation aussi qui a un effet thérapeutique. Ils peuvent essayer d'autres modèles. Les rôles joués doivent l'être intensément pour que les enfants les perçoivent, les sentent, les investissent en les adoptant ou alors en les repoussant. Nos retours leur permettent de maintenir la distance entre les différentes expériences et de ne pas se perdre dans l'une ou dans l'autre. Le cadre et les thérapeutes vont les aider. Ils vont s'appuyer sur ce dispositif pour pouvoir construire des symboles, car la mise en sens permet de créer des représentations nouvelles et des symboles. Nous créons ainsi un double mouvement entre la mise en scène, les scénarisations, les associations libres de représentation et l'impact émotionnel qui touche tout le groupe et les accompagnateurs. On est souvent très touché par ce qui se passe lors des séances. Nos objectifs, alors la surdité et les différents handicaps associés laissent dans la famille des blessures qui sont narcissiques et des traumatismes que l'enfant porte malgré lui comme un héritage. L'enfant ne peut pas investir et ne peut pas s'approprier cet héritage. Il ne peut donc pas prendre de la distance avec non plus. Car ces représentations, pour lui, elles sont brutes et emprisonnent l'enfant et ses parents dans une relation qui, parfois, peut être violente. Les scénarisations vont émerger et vont pouvoir être transformées par le groupe et accueillies par les thérapeutes. Elles vont être dédramatisées et devenir des représentations car déchiffrées. Elles pourront servir pour la construction psychique de chaque enfant. Les enfants n'ont pas eux-mêmes des outils pour digérer ce qu'ils ont produit. Alors notre rôle est de rendre ce matériel plus digeste, ce qui permet le travail de transformation et de dédramatisation. Nos retours leur permettent de dessiner eux-mêmes une cartographie de là où ils en sont, de leur désorganisation, afin qu'ils ne se perdent pas et qu'ils puissent construire leur intérieur. Cette structuration les aidera à ne pas sombrer dans une confusion. Il s'agit de leur faire comprendre qu'il existe d'autres formes d'organisation, de leur faire vivre d'autres situations socialement correctes pour qu'ils puissent se les approprier et trouver donc une place dans le groupe, dans la famille et dans la société. Ils vont acquérir de nouveaux rôles pour que l'on pose un nouveau regard sur eux, que l'on croit en eux et qu'ils puissent ainsi grandir. Le jeu lui-même va leur permettre de réorganiser des sentiments qui sont confus et qui les empêchent de grandir. Notre dispositif est souvent la reproduction du portage parental. Tout le travail que nous menons à deux, donc autour des séances, nous permet de garder notre position de thérapeute et de ne pas nous perdre dans des rôles qui nous éloigneraient de celui de l'accompagnement. Nous explorons avec eux de nouveaux rôles, de nouveaux lieux. Comme les parents peuvent offrir à leurs enfants, à l'espace de l'enfance, une maison, des murs, une chaleur qui sont contenants pour se construire. Donc nous, nous leur offrons un espace sain qui se veut suffisamment rassurant pour démarrer, remettre en route ou stimuler des acquisitions utiles au développement psychique. Nous les aidons à reprendre de l'épaisseur, la seule véritable preuve de leur existence. Nous leur tendons un miroir dans lequel ils ont l'impression d'exister. Nous sommes des médiateurs donc entre leur réalité et la réalité sociale. Quand nous jouons avec eux, nous leur permettons d'essayer de se saisir de notre intériorité. Donc vous voyez toute l'importance de notre disponibilité à ce moment-là. L'enfant peut alors devenir un véritable pirate en quête du trésor de l'autre. Et ça, c'est ce que vous allez voir à travers une vignette clinique de l'enfant que nous allons vous présenter, où il se présente comme un pirate, comme dans le jeu et la signature. Nous sommes convaincus de la nécessité d'opérer des différenciations afin que chaque enfant arrive à se percevoir dans sa partie singulière, comme un être unique, venant lui-même de parents uniques. Il s'agit d'un long processus qui nécessite la traversée de l'univers maternel fusionnel pour accéder à l'univers paternel. Notre rôle de remédiation doit leur permettre de mettre en scène des personnages suffisamment différenciés et structurés et autour d'un scénario digeste psychiquement, socialement et culturellement. Alors, pour conclure, comme vous pouvez le voir, c'est un long voyage thérapeutique et c'est la manière de poser le cadre qui rend cet atelier thérapeutique. Notre approche est celle de la recherche-action, une adaptation de nos outils, une interrogation continuelle de la pertinence de nos actions. Notre démarche n'a cessé d'évoluer au fil des années. Des questions restent ouvertes, notamment sur l'influence des différents vécus familiaux ou institutionnels sur l'atelier, sur ce qui peut être renvoyé ou non aux équipes, sur ce qui s'est passé lors des ateliers, et aussi sur la complémentarité du travail entrepris par les thérapeutes pour accompagner les parents dans l'évolution de leurs enfants. Voilà. Donc, je vous remercie de votre écoute et on va vous présenter donc un diaporama qui illustre donc nos propos.
La première. vous avez eu un aperçu, de, un peu une image de notre atelier. Alors, on va re-atterrir, parce que c'est, ça nous fait un peu rêver, ça nous replonge un peu dans notre atelier, pour parler de ce que nous, on travaille à partir des enveloppes, en fait, et pour nous, c'est très important que le groupe existe, on travaille sur le groupe beaucoup, et on a trois type d'enveloppe qu'on développe avec trois niveaux de travail qui sont complètement différents, que je vais expliquer très brièvement parce qu'il faut que je présente le cas. L'enveloppe narcissique et groupale qui est représentée par la frise du temps, les signatures à la dernière photo, vous avez vu qu'il y avait plein de feuilles collées sur le mur avec les dates chaque fois de l'atelier où les enfants venaient signer. C'est très important de savoir tout ce qui se passe autour des signatures. Les signatures représentent quelque chose de très important. Comme la frise elle-même du temps représente quelque chose de très important parce que les enfants se repèrent au niveau temporaire. Ils ont cet axe temporaire qui les structure. Et chaque fois qu'ils sont perdus, ils regardent la frise. C'est très, très, très important. Donc, cette frise du temps, on ne s'y attendait pas que ça allait avoir un tel impact. Ensuite, il y a tout ce qui se passe au niveau de la scène elle-même et de la limite que cette scène pose. C'est un peu l'enveloppe imaginaire. Et elle s'appuie sur le jeu et les scénarisations qui vont naître sur scène. Mais ces scénarisations ne sont pas tout à fait conscientes quand les enfants jouent. Les enfants jouent, ils sont dans un élan de créativité et ils se laissent aller à jouer des choses dont ils ne se rendent très souvent pas compte. Ils ne se rendent pas compte de ce qu'ils jouent et les rôles qu'ils jouent. Donc on est obligé de reprendre dans une troisième étape au niveau de l'enveloppe des significations et de la restitution qui se fait chaque fois autour, premièrement après chaque jeu de scène, après avec l'aide des photos projetées sur un écran et avec l'aide des photos imprimées, on a pu le faire dans une troisième étape, donc imprimer les photos, le mettre par terre et commencer à faire un travail sur le choix de ces photos-là, et on peut redéclencher des jeux à partir de ça. Voilà, c'était pour expliquer globalement parce qu'on n'a pas trop le temps. Et donc, je fais abstraction là du travail qui se fait au niveau groupal pour me concentrer, parce que nos interprétations et notre travail se fait exactement à l'endroit de l'intersection entre l'individu et le groupe. Toutes les interprétations qu'on fait, toutes les restitutions se font à l'endroit où l'individu touche le groupe et où le groupe touche l'individu. C'est très important pour nous de dire que ce n'est pas comme certaines formes de psychodrame où l'individu est là et le groupe est accessoire. Nous, on travaille avec le groupe. Mais comme on n'a pas trop le temps, je ne peux pas expliquer tout ça. Alors, je vais donc me baser sur le cas d'Adèle, un enfant qu'on appellera Adèle. Et donc, comme anamnèse, je dirais que c'est un enfant qui a 11 ans, qui est sourd profond et implanté cochléaire et qui est arrivé aux Hirondelles il y a 5 ans. Il a été intégré au premier groupe de la CEDA, puis récemment, il a passé au second groupe. Pendant très longtemps, Adèle a présenté des troubles de comportement importants. Il avait développé une multitude de TOC et il pouvait être très violent avec les autres enfants et aussi les adultes. Les avis sur cet enfant divergeaient, ce qui a divisé notre équipe, comme il est fréquent quand on est confronté à la psychose. Je devrais dire plus que divisé, je devrais dire clivé. Donc on a eu une équipe qui était vraiment clivée entre une partie qui demandait le suivi de cet enfant dans un hôpital de jour et une autre partie qui disait qu'il était très bien ici, qu'il pouvait quand même évoluer parce que les épisodes de violents ne paraissaient pas à tous les endroits. Et ça, on le trouve très souvent avec les cas qu'on a. Une réflexion autour de cet enfant renforcée par le partenariat avec l'UMDA, qui est l'unité mobile départementale pour l'autisme, et aussi l'appui de notre psychiatre, avec un traitement par Risperdal, a abouti à une amélioration sensible de son comportement et un changement de groupe récemment. Alors, du point de vue psychothérapeutique, j'ai suivi cet enfant pendant 3 ans. Et j'ai aussi effectué parallèlement un accompagnement de la mère de cet enfant. J'inclus alors l'enfant à la fin de mon entretien avec elle. Actuellement, la mère est suivie par l'UMDA et l'enfant a commencé avec ma collègue thérapeute et moi-même des séquences de groupe en dramathérapie depuis 2 ans. Il faut ajouter à ce tableau général que cet enfant a perdu son père lorsqu'il avait 18 mois. La mère communique uniquement sur le mode oral avec son fils. Elle ne fait aucun effort pour signer. Elle dit lors de nos premiers entretiens que l'absence du père n'a pas été remarquée par son fils. D'ailleurs, elle ne sait pas comment lui en parler. Mais cet enfant ne prononce oralement qu'un seul mot, papa. C'est le mot avec lequel il interpelle tout le monde. Papa, 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 papa. C'est tout le temps, quand il est arrivé en tout cas, il parlait comme ça. C'est Adèle qui, paradoxalement, ramènera la question du père dans nos entretiens. Dans le bureau du psychologue, il joue toujours au même jeu. Il enfonce des camions dans de la pâte à modeler et essaie de les extraire ensuite par tous les moyens. Je ne comprends pas ce jeu qui devient vraiment redondant d'une séance à l'autre. La mère me dit sans hésiter que cela lui rappelle la mort de son mari qui s'est fait écraser pendant son travail par le camion qu'il conduisait. Elle est étonnée car personne n'a pu en parler à Adèle. Alors j'essaie de faire brièvement, j'essaie de faire un travail avec cette mère en lui proposant d'amener des photos avec son mari et Adèle pour qu'elle puisse elle-même peut-être... basé sur ces photos, parler à son enfant, mais je serais étonné par le fait qu'aucun souvenir concernant son mari ne lui vient pendant les séances pour présenter à son enfant. La mère amène son fils et sa fille, parce qu'Adèle a aussi une sœur, une grande sœur, à 2 reprises en Algérie pour voir l'endroit où son père est enterré. Excusez-moi, son père est enterré parce qu'il est mort en France. Comme elle se trouve elle-même dépassée par le comportement de son fils, elle se fait battre à plusieurs reprises par lui, casse les meubles à la maison, etc. Elle cherche à le faire examiner par un imam guérisseur, puis par une voyante célèbre du pays. Celle-ci la met en garde et lui dit que son fils a à l'intérieur de lui une entité féminine et qu'il faut l'extraire à temps. Si on la laisse longtemps lui, Adèle s'y habituera et finira par se marier avec elle. Il ne pourra plus avoir de relation avec une autre personne, ni se marier. Un semblant de dialogue se met en place et... Excusez-moi, c'est moi qui... Nous voilà donc devant une problématique identitaire qui touche une double culture... et qui nous semble-t-il se trouve en relation avec le comportement violent de cet enfant. Je voulais juste dire qu'actuellement les TOC ont presque disparu et que le comportement de cet enfant a changé dans le bon sens. Il prononce quelques mots, mais signe de mieux en mieux. Nous sentons qu'il y a quelque chose qui a changé en lui. Cela ne veut pas dire qu'il est tiré d'affaire, mais notre équipe entretient désormais un espoir grandissant quant à son avenir. Alors, je vais reprendre ce qui se passe au niveau dramathérapie, au niveau de l'enveloppe narcissique et des signatures. Alors, Adèle est préoccupée par la question de son identité et plus particulièrement par une confusion au niveau sexuel. Il cherche à être rassuré en explorant la question du double. Quels sont les indices qui nous font penser à ça? Et là, je parlerai uniquement dans ce qui se passe au niveau des signatures. Alors, il tente d'échanger l'écriture de son prénom en enlevant la barre inférieure du E d'Adèle, ce qui transforme le E en F. Est-ce que c'est le F de fille? Je n'en sais rien. Dans les échanges avec Christine, il veut changer de signe et utiliser uniquement un doigt pour signer. Donc, son signe, c'est ça, et il veut le transformer en ça. Donc on a toute une discussion là-dessus pendant 2 ou 3 séances, ça va nous interpeller, mais dès que je reformule ce changement, il refuse de le faire avec moi. Il se moquera directement de notre enfant qui s'appelle Nicolas et qui veut se présenter au groupe comme une fille et qui joue des rôles féminins sur scène. Il montrera la division entre guillemets de sa personnalité en choisissant 2 couleurs différentes pour écrire son prénom. Et il adoptera des jeux de recherche d'identité sexuelle et cherchera à identifier tous les enfants du groupe en touchant leur visage et en imitant en aveugle, en touchant leur visage en disant « c'est un garçon, c'est une fille, c'est un garçon, c'est une fille ». Parallèlement à ce processus, il colle son prénom à celui de Jason, un autre enfant. Ce collage se transforme progressivement et au fur et à mesure des séances. la lettre R. R, on a su ensuite ce que ça veut dire, c'est Ramin, donc c'est l'atelier qui a été présenté pour ceux qui étaient tout à l'heure dans notre section, qui travaille donc avec cette méthode. Et donc Adèle participe à cet atelier et Jason, son copain, ne participe pas, mais il colle les deux prénoms en mettant le R entre les deux. Progressivement, donc, une petite signature de sa part apparaîtra en dessous des deux prénoms. Enfin, une tête de pirate et une tête de mort apparaîtra à côté de sa signature. Adèle les associera à son père mort. Voilà, ça, c'est ce qui se passe à la première enveloppe. La deuxième, c'est au niveau de la mise en scène et de l'enveloppe imaginaire et groupale. Il joue un robot immobile. Vous l'avez vu au début, il était complètement immobile et il regardait avec ses yeux, avec un regard fixe qui cherche à paralyser l'autre par le regard, ce qui terrifie les autres enfants. Ce que nous voyons sur scène, c'est une sorte de paralysie motrice et psychique, aussi que la volonté de mettre les autres sous son influence. Il s'agit de mettre en scène sa propre toute-puissance et peut-être aussi en même temps la toute-puissance de sa mère. Un semblant de dialogue se met en place uniquement avec Jason, son alter ego, mais celui-ci devient progressivement un instrument à la volonté d'Adèle. À la fin du jeu, les deux enfants ont du mal à nommer le rôle qu'ils jouent. Ils se présentent de la même façon devant le groupe. Ils disent qu'ils sont rien. Le signe, c'est comme ça. Rien. Alors, nous invitons les autres enfants de les aider à signer leur prénom correctement, mais ça ne marche pas sur scène. On n'y arrive pas. Les autres enfants n'arrivent pas à les faire signer. On les voit aussi sur les photos que nous avons montrées. Oui. Oui, pour Jason, oui, il n'y a que Adèle, oui, effectivement. La séance suivante, Adèle prend Adèle vraiment est vraiment actif au moment de la mise à mort répétitive de Christine. Christine se met sur scène et joue la morte de rire, parce qu'il y a eu un scénario la veille. Donc, alors que celle-ci se trouve par terre, Adèle, il lui bouche le nez. Elle lui ferme la bouche. Il tente aussi de lui ouvrir les yeux pour vérifier s'il est bien morte. Tous les membres du groupe adoptent la même attitude sadique, donc ils attaquent tous Christine qui est par terre et qui fait semblant de mourir, mais qui ne meurt pas vraiment. Mais Alors à ces mots-là, George intervient sur scène en tant que policier et arrête le jeu. C'est très important. Je sais qu'on n'a que 5 minutes, même pas. D'interrompre le jeu, c'est très important. Le moment où on interrompt les jeux, parce que c'est là où on fait césure, là où on fait coupure, et c'est là où les choses vont pouvoir se différencier. Alors, je continue. La séance suivante, Adèle prend de la distance avec ce qui se passe sur scène. Il n'entre pas dans le jeu des autres, qui met en scène une tentative de naissance ratée. Ils utilisent le rideau de la scène pour entrer à nouveau dans le ventre maternel. Cette mise en scène sera ensuite reprise par les thérapeutes lors des restitutions. Et je termine avec ce qui se passe au niveau des enveloppes de signification et des élaborations symboliques. Nos restitutions portent sur l'observation, alors là j'insiste, sur l'observation de la place de chaque enfant dans le groupe. Les emplacements sont très importants. La difficulté de changer de rôle est aussi sur les éléments de différenciation que nous reprenons à partir des photos enrichies par l'apport du groupe. Ce sont ces restitutions qui aident Adèle et les enfants à transformer leur vécu en se percevant différemment. Alors, premièrement, nous reprenons pour Adèle cette impossibilité de se nommer. Nous constatons une possible différenciation de sa part entre les identités sexuelles sur scène et hors scène. Il peut distinguer maintenant. Nous insistons sur une figure de duo, sur cette figure de duo inséparable avec Jason, la figuration de Shiva, vous savez, les deux qui sont avec les mains comme ça. Et suite à ce moment, Adèle reprend de manière non compréhensible et en dactylologie le mot ami, A-M-I, mais de manière un peu qui n'était pas très claire. Christine et Georges lui confirment ce qu'ils ont compris. Alors Adèle prononcera oralement et clairement ce nom, ce qui provoque une émotion au niveau du groupe. Puis Christine lui appelle son prénom. Adèle prononcera chaque lettre et ensuite son prénom de manière parfaite. C'est la première fois qu'on entend cet enfant prononcer un mot. Le groupe l'applaudit. à la séance suivante, il essayera de prononcer correctement le nom de Christine. Alors, après la mort de Christine sur scène, Adèle confond les signes maman et Christine. Maman, Christine, c'est le grain de beauté qui fait. Alors, regardez la configuration des doigts. Maman, Christine. C'est très proche au niveau des signes. Mais en fait, Christine n'est pas vraiment morte sur scène. Dans le jeu, elle est assimilée à une mère toute puissance qu'on ne parvient pas à tuer. Georges reprend Adèle au niveau des gestes pour accentuer les différences. Il faut différencier la réalité de l'imaginaire. Quand Georges parle de la tentative de naissance du groupe, Adèle fait le lien avec la naissance ratée et l'absorption des enfants par la mère. Pour lui, c'est un avalement et pas une naissance. Enfin, il y a différenciation sur les règles. Adèle est saisie quand Georges reprend Nicolas sur une règle commune de respect au niveau du groupe. Pour cette fois-ci, la règle n'est pas une arme contre lui. Alors, pour terminer, un transfert massif et positif est mis en place envers Christine, ceci même en dehors des séances de la dramathérapie. Le travail de Georges est d'aider la différenciation entre le fantasme de mère dévoratrice qui envahit l'espace mental d'Adèle et la figure de Christine, thérapeute éducatrice. Nous faisons l'hypothèse que ces deux images peuvent rester à certains moments fusionnées, libérées de l'énergie pulsionnelle et provoquer des comportements inappropriés, des comportements violents. Notre dispositif a aidé Adèle à opérer cette différenciation et de prendre de la distance par rapport à un vécu archaïque. La mère dévoratrice peut être tuée sur scène. Christine peut symboliser cette mort, mais elle reste néanmoins vivante pour lui. Elle l'aide à pouvoir prononcer son nom et à exister différemment. Voilà. Suivant ce qu'on vient de dire, on a préparé un peu le fait que nous travaillons à partir des enveloppes la contenance par étayage narcissique, par l'émergence du jeu et par les représentations et les pensées qui vont suivre, et nous terminerons par ça, c'est-à-dire que notre travail consiste à passer d'une mise en forme à une mise en scène, à une mise en sens qui va permettre la construction identitaire du sujet. Donc ce sujet se construit autour des deux axes émotionnels et cognitif, et ces deux axes se croisent autour de l'émotion. C'est notre hypothèse centrale. Donc, pour nous, on travaille là où l'impact émotionnel va pouvoir naître dans le groupe et qui va nous impacter, nous aussi, thérapeutes. Et c'est à ces endroits-là qu'on va pouvoir restituer, interpréter, et les enfants vont nous dire si, oui ou non, nos interprétations sont justes ou pas. Si nos interprétations sont justes, ça va créer des représentations vraies qui auront des chances de devenir des pensées, c'est-à-dire des outils de communication. Voilà, je vous remercie et on va ouvrir la discussion. Parce que c'était un peu trop...
Bien, merci pour cette présentation. Ça raccourcit un petit peu le temps de débat, mais je vais tout de suite vous passer la parole si vous avez des questions, des remarques, des commentaires. Moi, j'avais une question, enfin, je ne sais pas, sur le cadre, comme je suis gérant du cadre, là. C'est vrai que ce n'est pas facile, hein, mais au théâtre aussi, il y a un début, il y a une entracte, il y a une mi-temps. Moi, j'aimerais connaître votre position, vous, en tant que la thérapeute. Parce que dans le psychodrame, encore que vous dites, dans le psychodrame, on ne se préoccupe pas du groupe, si, quand même. Enfin, mais juste, je finis ma question. C'est-à-dire, je voudrais vous questionner aussi sur votre positionnement par rapport à cette présence, normalement, d'une supervision qui vous permettrait cette élaboration. Comment vous pouvez, vous, élaborer post-théâtre, quelque chose en étant dedans et dehors. Est-ce que vous pouvez nous expliquer peut-être votre positionnement, qui est intéressant, hein, par rapport à ça?
Justement, je crois que l'originalité de notre travail, c'est le travail de l'entre-deux. C'est qu'on est tantôt dedans, tantôt dehors, et que ça a un impact sur nous. Ce voyage entre dedans et dehors, ça a un impact sur nous, et nous travaillons sur l'effet que ça fait sur nous. Et c'est, je pense que c'est l'originalité de notre manière de travailler. Je réponds sur votre question sur le psychodrame. Il y a tellement de types de psychodrames que certains prennent en compte le groupe, effectivement, et d'autres pas du tout. Voilà, ce n'est pas notre cas.
Est-ce qu'il y a d'autres... Oui, bien sûr.
Géraldine Gibouin, psychologue à l'Institut Montéclair à Angers. Dans la suite de ta question, Serge, mais est-ce que vous faites une supervision avec un psychothérapeute extérieur?
Oui, oui.
D'accord.
Moi, oui, je suis. Je présente, mais peut-être Christine, non, mais moi, oui.
Ouais. D'accord. Mais vous ne faites pas ensemble?
Tous les deux, non.
Non, d'accord. Et puis, je continue juste. Vous avez juste évoqué, dans votre présentation, monsieur, l'articulation entre l'individuel et le groupal au niveau des interprétations. Est-ce que vous pouvez en dire un petit peu plus sur comment...
Oui. Par exemple, quand on revisionne les photos, on regarde les configurations qui peuvent exister sur la photo et qui impliquent les enfants. Tout groupement par deux, par trois, ou seul avec un miroir à un moment donné, on voyait les enfants, on interpelle les enfants sur ça. Tout ce qui est contact au niveau des photos, quand ils se touchent, ou alors s'il y a, il y a une photo où on voit la petite fille avec un, on appelle ça le foulard, qui interpelle notre enfant, donc il y a un lien entre eux avec le foulard, etc. Donc on leur demande comment ils se sentent là. Qu'est-ce qui se passe là, à ce moment-là, par rapport au groupe? Alors, on leur montre, regarde, toi, tu ressens ça, tu vis ça, mais à côté, il y a autre chose qui se passe. Alors, et là, ils réélaborent une histoire qui est complètement différente parfois de ce qu'on a vécu sur scène. Donc, il y a une première transformation qui a lieu là, et ils habillent leur vécu perçu-conçu, ils habillent leur vécu par une autre perception qui vient a posteriori avec l'aide du groupe et avec l'aide des thérapeutes. Donc, il y a une jonction là, il y a une rencontre. En fait, les lignes que vous voyez là devaient être s'élargir parce que pour que les espaces se créent, il faut des différenciations pour qu'on puisse justement comprendre ce qui se passe entre chaque espace et voir naître de nouvelles représentations. C'est comme ça qu'on le vit, en tout cas. Excusez-moi, je ne sais pas si j'ai répondu.
Si, si, pour vous donner un exemple, il y a un aller-retour sans arrêt entre le groupe et chaque individu. C'est un aller-retour qui se fait continuellement et surtout après au niveau des retours, c'est vraiment là de la restitution que ça se fait, parce que quand les enfants regardent les photos, après ils se regardent eux et on remarque que c'est vraiment eux qu'ils regardent, et ils reconstruisent même leur propre histoire. Ils nous avaient donné une histoire à jouer sur scène, et quand ils regardent leurs photos, eh ben, c'est complètement différent. On a l'exemple du petit garçon que vous voyez dans le cercle en bois, hein, qui jouait, je crois qu'il était un policier à ce moment-là, quelque chose comme ça, il jouait ce rôle-là. Et quand il s'est vu sur les photos, il nous a dit, ben non, je suis papa outé. Voilà. Parce qu'il est dans une position, je ne sais pas si vous avez, elle vous a frappé cette photo, il est très figé, très, eh ben, je suis papa outé. Voilà, donc non, j'ai pas joué le policier, voilà, donc le papa outé, vous avez tous fait le lien avec Stromae, voilà, voilà, et c'est lui-même qui nous a renvoyé ça, nous on l'avait pas vu, voilà, on n'avait pas vu, donc et c'est lui qui nous renvoie ça, donc si vous voulez, il y a sans arrêt des allers-retours comme ça, entre le groupal, parce que c'est un jeu qui était groupal, et après l'individu, quoi, et ce qui peut ressortir de lui-même.
D'accord. Voilà. Bon, ben, écoutez, merci. Oh, oui,
justement, pour dire qu'on vous a préparé une synthèse en deux feuilles pour ceux qui sont intéressés. On n'a que 25 copies. Si vous voulez revoir un peu mieux l'aspect théorique, tout ça, de ce qu'on vient de dire sur deux feuilles, avec nos mails, si vous voulez nous renvoyer des choses, parce qu'on aime bien les retours. Voilà, c'est tout.
Merci. Très bien, merci encore. Et puis... Bien, on va laisser un petit moment si vous voulez récupérer ces documents. Et puis voilà, comme il en reste, je vais en prendre un. Merci beaucoup. Bien, ben, je vous propose de continuer pour installer la prochaine intervention de l'équipe du CROP Paul Bouvier, puis de l'IEM La Cigale. Est-ce que les personnes sont là? Ah ben, s'ils ne sont pas là. C'est vous qui allez intervenir. Donc on dit une demi-heure et un quart d'heure de débat. D'accord, hein? Ok, très bien. Bon. Vous avez non en PowerPoint? Ah oui, allez-y vite, oui. Vous savez le brancher? On m'a beaucoup insisté sur le temps. Tout ça. Alors, il faut qu'on s'arrête absolument à moins de 15. Donc c'est pas... Vous êtes à l'écran déjà, hein? C'est bon. Bien, nous allons poursuivre. Je vais vous inviter à revenir tout à l'heure tranquillement. Bien, je vais vous inviter à vous asseoir. Nous allons poursuivre avec l'intervention du CROP Paul Bouvier de l'IME La Cigale, avec l'intervention de Frédéric Bugarel, de Clarisse Lefebvre et de Pauline Robustelli, qui vont nous parler de l'apport de la LSF dans la communication et les apprentissages auprès d'enfants porteurs de handicap moteur avec troubles associés. Donc, on leur donne tout de suite la parole pour ce moment de présentation d'une demi-heure et puis d'un quart d'heure de débat. Il faut qu'on tienne absolument l'horaire parce que ces dames et ces messieurs m'ont dit qu'ils devaient se changer, costume, cravate, pour la soirée de ce soir. Et donc, il faut laisser le temps à tout le monde. Si, la tenue queue de pie est obligatoire pour ce soir, pour les messieurs, mais les dames. Bien, on vous donne la parole. Merci.
Oui, Bien, donc on va se représenter rapidement. Je suis Pauline Robustelli, enseignante spécialisée dans un établissement pour enfants handicapés moteurs au départ, avec des troubles associés. Et Clarisse.
Je suis orthophoniste dans le même établissement et j'exerce aussi à mi-temps en libéral.
Et Frédéric.
Je me présente, je suis Frédéric. Bugarel. Et je travaille au CROPS. Voilà, au CROPS, pardon, avec donc mes collègues.
Alors, on va vous présenter une petite expérience qui, maintenant, a 4 ou 5 ans, à peu près. Nous, au départ, on s'occupait exclusivement d'enfants handicapés moteurs. Et un jour, un enfant sourd, IMC, est arrivé dans notre établissement. Et on s'est retrouvé un petit peu dépourvu parce qu'on s'est dit que faire. On n'a pas du tout de langue des signes, on n'a que des pictos. Et lui, il avait investi plutôt moyennement les pictos. Donc, on s'est lancé dans une aventure de se mettre à apprendre les bases de la LSF. Et au fil du temps, on s'est rendu compte qu'il y avait eu des tas de petites choses intéressantes qui s'étaient passées auprès d'enfants qui, a priori, n'avaient absolument pas besoin de cet outil. Voilà, donc des enfants entendants, avec des troubles moteurs et des mains importants, de la déficience légère. Donc, en fait, ce petit témoignage a pour but simplement de voir comment un outil a priori qui ne les concernait pas s'est développé et où on en est 5 ans après par rapport à cette expérience-là. Donc en 2008, on a accueilli Yazid qui avait 12 ans, atteint d'une surdité bilatérale appareillée, qui connaissait quelques signes, handicap moteur léger, bon, prononciation très, brouillée. Il donnait l'impression d'avoir une bonne compréhension des situations concrètes et on s'est rendu compte qu'en fait, c'était juste une impression. Et il avait des gros troubles du comportement. Donc les émotions, il n'y avait pas de mots, c'est à part crier fort, pleurer, se rouler par terre. On n'avait pas tellement d'autres décodages des situations.
Et puis nous, on n'avait pas d'outils, surtout pour lui expliquer les situations et essayer de dédramatiser ce qui le mettait dans des colères noires. Et voilà, donc il y avait vraiment un problème pour lui à comprendre ce que nous, on essayait de lui transmettre et pour nous de comprendre ce qui le mettait tellement en colère.
On change. Alors, très vite, il y a eu un classeur de pictos. D'ailleurs, cet enfant était pris en charge par le CROP et était arrivé avec un classeur de pictos. Depuis le départ, il y avait un partenariat avec le service du CROP. Une enseignante spécialisée qui venait en classe ou un petit peu dans l'établissement pour essayer d'améliorer sa communication. Et on en était là. Après, c'est comment tu veux.
Oui, alors pour justement être dans la continuité, moi je suis arrivée dans l'établissement, donc le CROP en 2007. Je connaissais ce jeune, donc je le suivais depuis un an en UEA. Et effectivement, je connaissais ses problèmes de comportement, ses problèmes moteurs. Et je voyais qu'effectivement la classe dans laquelle il était, c'était pas forcément adapté, qu'il avait une langue des signes qui était assez pauvre, et c'est pour ça qu'on l'a aussi orienté en IME. Et l'IME nous a sollicité pour rencontrer ce jeune, puisque il n'y avait pas encore d'ouverture sur la langue des signes, et j'y suis allée régulièrement. D'une part pour le jeune, parce que ça lui permettait de rencontrer la langue des signes, même s'il a été un peu surpris au début, hein, effectivement, ne serait-ce que le bonjour. On a commencé par là, et puis petit à petit, on en a rajouté. Et puis l'équipe aussi a pu développer sa langue des signes aussi pour les professionnels.
Alors, sur son groupe de vie, deux éducateurs se sont dit, bon, là, il faut vraiment qu'on s'y mette un petit peu à signer. Ils sont partis d'abord, eux, en formation pendant quelques modules la première année. Et c'est là qu'on s'est rendu compte que les autres enfants étaient super intéressés par ça. Ils commençaient à s'approprier les gestes, à les transformer, certains parce que la motricité était entravée, mais qui avaient un réel intérêt et même une utilisation assez spontanée, alors que nous, on était là avec nos pictos, nos mots, tout un tas d'outils qu'on rééduquait, qu'on entraînait, etc. Et là, spontanément, le geste, c'est devenu propre à chaque enfant, en fait. Donc, l'année d'après, on s'est dit, continuons. Donc, Yazid est arrivé dans ma classe. Et là, la première chose que j'ai faite, c'est acheter des dictionnaires. Je les ai mis en classe, les enfants les feuilletaient. Moi, je passais mon temps à les feuilleter. Ils voyaient qu'ils étaient plus rapides que moi pour trouver les premiers mots. Donc, ils étaient en position, dans une position tout à fait inhabituelle où eux étaient plus forts que les adultes. Et ils voyaient aussi que c'était difficile d'apprendre. Que, bon, moi, je fais beaucoup d'erreurs, j'oublie. Donc, il y avait aussi toute cette désacralisation, entre guillemets, du savoir et de... Il n'y a que l'adulte qui peut y arriver. Et que, bon, enfin, voilà. En parallèle, on a commencé aussi notre formation. Et on a eu de plus en plus de demandes, d'abord des enfants. On veut apprendre. Des enfants qui ne fréquentaient pas la classe, qui voulaient aussi apprendre. Notamment un groupe d'adolescents qui s'étaient rendu compte qu'ils pouvaient raconter plein de choses sans que les grands, les adultes comprennent. Donc les premiers mots appris ont été les gros mots, les choses bien... Et puis, petit à petit, sur les groupes, on voyait des adolescents qui traduisaient un petit peu à Yazid ou qui venaient aider leurs éducateurs dans certaines situations un peu compliquées, quoi. Donc là, on s'est dit, bon, super, c'est bien la première fois qu'on est face à un besoin exprimé par les enfants. Et on a progressivement, étoffé notre formation. Des éducateurs sont venus se former, des rééducateurs, etc.
Une des choses qui, pour moi, a été très étonnante aussi, c'est la spontanéité de communication qu'on avait tant de mal à développer avec les pictogrammes. Là, le fait, je pense que les adultes signent aux enfants, ou en tout cas spécialement à Yazid, mais... signent même entre eux pour discuter, réviser, s'entraîner. Les enfants s'appropriaient ça beaucoup plus facilement que dans une séance d'orthophonie où on transmet dans des situations dirigées, casse-pieds et qui ne ressemblent pas forcément à leur vie quotidienne. Là, d'un coup, ça prenait du sens pour eux et spontanément, ils se sont mis à discuter entre eux. Enfin, c'est une chose que moi, j'avais jamais vu faire, autant que ça en tout cas, avec une communication pictographique.
Alors, en plus, le fait de signer, donc, pour nous, c'était compliqué. On devait retrouver le geste dans notre tête, simplifier la phrase. Donc, finalement, on a aussi ajusté notre propos. On faisait des phrases moins longues, donc qui étaient beaucoup plus compréhensibles, et elles devenaient visuelles. C'est là que les enfants, entendant, mais avec des petits niveaux intellectuels, se sont mis à beaucoup plus comprendre ce message oral. Alors, on savait qu'il fallait faire des phrases courtes, mais là, ça nous est apparu encore plus. Ensuite, qu'est-ce qui s'est passé?
En fait, il y a eu aussi des bénéfices secondaires à l'utilisation de la langue des signes qu'on n'attendait pas sur justement l'amélioration des productions orales, on se doutait, et puis c'était un petit peu notre objectif. pour Yazid et du coup pour ceux qui s'en sont emparés aussi. Mais on s'est rendu compte aussi, parce qu'on a des enfants dans l'IEM avec des profils neurologiques, donc des troubles de la planification, des troubles de l'évocation, des troubles de la mémoire, de l'attention. Et finalement, eux aussi, en utilisant la langue des signes, se retrouvaient à améliorer leur performance pour trouver les mots justes, pour mémoriser les choses qu'ils avaient signées en plus de les avoir entendues dire ou dites. Et puis ça canalisait l'attention du fait qu'il y ait deux entrées, une visuelle, une auditive. Ils étaient beaucoup plus attentifs et voilà, c'était du coup beaucoup plus facile de travailler avec eux en classe, en rééducation, dans tous les contextes de travail.
Et puis il y avait aussi cet entraînement de la coordination bimanuelle où finalement on s'est rendu compte que dans l'orientation spatiale, la langue des signes, c'est super riche, quoi. Voilà, donc maintenant, donc en 2011, il y a eu une proposition de formation plus élargie. Ça, on l'a dit. Alors, Frédéric, du coup, a continué son intervention auprès de Yazid avec une heure en individuel et une heure maintenant en classe. Donc,
oui, tout à fait, oui. Ce jeune intégré l'IME en septembre 2008, il n'avait aucun signe, il ne se sentait vraiment pas bien, il était mal, donc il était isolé. Je l'ai rencontré, on a travaillé ensemble, on a pas mal échangé, et là il a tout sorti, tout ce qui était à l'intérieur de lui, il a pu s'exprimer enfin, il a pu enfin échanger. Et l'équipe d'éducateurs m'a demandé de l'aide parce qu'il n'arrivait pas à communiquer avec lui. J'en ai parlé avec ce jeune, j'ai informé l'équipe et j'ai fait un petit rôle de médiateur finalement entre ce jeune et le groupe d'éducateurs. Et en parallèle, on a proposé également un projet. En fait, ce jeune-là a rencontré d'anciens élèves et ça lui a fait énormément de bien de pouvoir communiquer avec eux, de parler de culture, de leur vie, de cuisine, de l'atelier, jardin. Ça lui a fait énormément de bien de pouvoir échanger avec eux. Il avait beaucoup de plaisir à les rencontrer parce qu'il pouvait échanger en langue des signes. Alors maintenant, il est en internat au CROP. Et cette année, je travaille en binôme avec des professeurs, donc à leur demande. Mon objectif, c'est de travailler avec la classe, de leur donner des signes, avec bien sûr des phrases simples, et puis d'aider également, d'apporter un soutien aux professeurs, hein, c'est important. Et c'est très positif. Je vois l'évolution du jeune. Bien sûr, il a des difficultés motrices, c'est difficile, mais tout de même, c'est quand même... Ça suscite beaucoup d'émotions chez moi, c'est vrai, mais...
Maintenant, Yazid est devenu un ado quasi ordinaire, on va dire. Il comprend maintenant beaucoup mieux le monde pas matérialisé devant lui, tout ce qui est plus abstrait. Il a accès à pas mal de mots du domaine culturel, on va dire. Et donc, il est parfaitement intégré dans l'IME, auprès des adultes, auprès des enfants. Il est capable de gérer les petits conflits s'il se passe quelque chose dans la cour. On lui raconte des choses. Enfin, il a une vie d'adolescent dans un établissement, on va dire, riche. Voilà.
Il est capable aussi d'aller chercher les interlocuteurs dont il a besoin quand il en a besoin. Donc, il sait gérer ses frustrations, ses conflits, ses émotions. Il sait aller chercher le médiateur qui va pouvoir lui servir d'interprète quand lui-même ne sait pas expliquer précisément ou n'a pas compris une situation. Il sait identifier maintenant les situations qui lui échappent et pour lesquelles il lui faut davantage d'explications.
Alors, on disait qu'on avait observé aussi tout ce qui concernait les enfants entendants. Alors, on remarque, par exemple, que certains enfants vont s'appuyer sur le geste pour pouvoir, après, mieux articuler un mot et plus oraliser. On a certains enfants qui ont des troubles un peu de comportement, qui préfèrent signer quand ils sont trop submergés par les émotions, parce que les mots ne sortent pas. Qu'est-ce qu'on observe de... Et on voit que quand même les situations sont mieux comprises, il y a plus une meilleure évaluation de ce qui se passe autour d'eux depuis qu'il y a cet outil-là.
Je me permets juste d'ajouter quelque chose. Effectivement, c'est un vocabulaire simple, hein, adapté aux jeunes qui sont là. C'est les vocabulaires de la vie de tous les jours. Oui, j'aime pas, je veux pas. C'est le vocabulaire de base.
Alors, Yazid se vit aussi comme dans son identité comme étant sourd. Et il nous fait des demandes précises par rapport à ça. Il a compris qu'on n'avait pas trouvé la solution idéale pour lui. Et comme là, il a 17-18, il va bientôt avoir 18 ans, il nous demande de lui prévoir dans sa vie de jeune adulte des moments où il pourra être avec des gens qui signent et des moments où il sera avec des entendants. Voilà, ça, c'est vraiment très, très précis dans sa demande.
C'est un peu la raison pour laquelle on a maintenu et intensifié le partenariat avec le CROP, qui du coup le reçoit une soirée par semaine à l'internat. Et d'ailleurs, il a été un peu déçu les premières fois parce qu'en fait, mais ils sont sourds, mais ils signent pas. Enfin, ils signaient beaucoup plus à l'IME finalement qu'au CROP. Et là, cette année, visiblement un peu plus, c'est lui qui initie les sourds à la langue des signes.
Voilà. Donc là, on en est où de cette expérience? Bon, donc ce qui a été mis en place dans l'établissement déjà depuis quelque temps sont des ateliers d'apprentissage. Comment? Vas-y.
Donc en fait, ce sont deux ateliers. Il y en a un que je co-anime avec un éducateur. Et un autre qui est animé par deux éducateurs. Il y a donc deux groupes de niveau, des jeunes qui ont entre 10 et 15 ans, enfin même 17 du coup, puisqu'il y a Yazid, et qui ont déjà un bon bagage, qui ont un niveau de langage de toute façon assez développé, qui du coup développe assez rapidement les signes aussi, et un niveau pour des plus jeunes qui eux l'utilisent vraiment pour entrer en communication et voilà, quand sont vraiment au démarrage. Et ensuite, il y a les interventions en classe.
Donc en classe, bon, la langue des signes est présentée comme deuxième langue. Je leur ai expliqué que c'était une langue officiellement reconnue, qu'elle est travaillée jusqu'au bac. Enfin, donc c'est la deuxième langue. C'est un choix qui est aussi explicite auprès des parents, parce qu'il y a pas mal de parents qui ne comprennent pas pourquoi on se met à apprendre cette langue qui est pour les handicapés, qui est... Enfin voilà, c'est plus vécu comme... pour certains parents, une stigmatisation qu'autre chose. Donc, je dis que c'est la deuxième langue apprise. Certains enfants, en arrivant dans la classe, ne comprennent pas beaucoup ce qui se passe. Donc, il peut y avoir du rejet. Je n'impose pas du tout le fait de se plonger là-dedans. Mais au bout de quelques semaines, ils y trouvent aussi du plaisir. Donc, c'est la deuxième langue. Et maintenant, on commence à avoir des demandes des parents. Donc, au bout de 4 ans, les enfants ont de plus en plus de signes qu'ils ramènent à la maison. Et on est en train d'essayer de voir comment faire évoluer, comment répondre à cette demande. Donc, on tâtonne un peu. J'ai proposé un temps de classe mixte enfants-parents, mais il y a des problèmes d'horaire, ça ne marche pas. Donc, je fais au cas par cas. Là, j'ai deux parents qui viennent. Je leur ai dit, vous venez quand vous voulez, et puis on s'adaptera. Donc là, chaque semaine, j'ai deux mamans qui viennent. Mais on a une réflexion au niveau institutionnel pour voir un petit peu comment organiser ça, parce qu'on se rend compte que le nombre d'enfants pour qui il y a un intérêt dans cette expérience, grandit. Voilà. Et on continue à avoir des demandes, mais alors vraiment d'enfants qui viennent frapper à la porte en disant polyhandicapé, parfois je veux apprendre, je veux. Donc ça, c'est quand même une situation assez rare.
Alors, le vendredi matin, on avait un atelier où on fabriquait des dessins animés avec un studio de fabrication de dessins animés. Et donc, ils ont proposé de faire une version signée sous-titrée pour Yazid, et puis parce que ça les intéressait de montrer à leurs parents où ils en étaient dans l'apprentissage de cette langue. Donc, bon, le dessin animé, c'est peut-être pas intéressant qu'on vous le montre, mais on peut vous montrer le film des enfants. La façon de travailler a été quand même très... c'est eux qui ont construit les phrases, ils ont fait des propositions, ils se sont un peu entraidés, donc il n'y a pas eu un apprentissage frontal. Pour dire ça, il faut dire ça. C'est faire comme ça, ça a été construit en grande partie par eux. Ah oui, le son, on n'a pas vérifié s'il y en avait. Bon, c'est signé et sous-titré.
Est-ce qu'on a besoin du son?
Oups, pardon. Tiens, Clarisse. Où est-ce que c'est?
Cette année, on a fait un dessin animé.
Et pourquoi ça marche pas?
Ça bouge. C'est une fois, dans un truc, dans la forêt.
C'est pas ça, parce qu'on est dans le PowerPoint. Tchouk.
Il marche. Cette année, on a fait un dessin animé. C'est une fois. Un truc dans la forêt, un château, un bonnet.
Il rencontre le magnifique éléphant, mais il porte tous les deux à eux. Un jour, ils ont une fille, tous les deux, qui s'appelle Nadie. Mais... Le prince voit Nadie, la fille, il a peur. Il crie. Éloigne cette créature, sinon je vais la tuer.
Elle est belle comme la lune.
C'est le crédit.
Un jour, elle veut visiter le monde.
Elle court vite, 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 jusqu'au sapin.
Nadie rentre au palais et voit la reine. La reine veut l'accueillir.
Va-t'en, créature!
En la voyant si triste, il se met la vanne et l'éternue en très rejeté.
Et au prince, au revoir, Nadie.
Le prince dit, waouh, trop joli. Nadie, donne-moi de l'eau. Le
sous-titre.
Dans la forêt, maman la retransforme. Qu'apporte le prince a peur. Mais... il voit la part, il veut les pousser au sapin. la reine est d'accord, mais pas le roi. Il est en colère du choix de son fils. Lucky et le prince se retrouvent et s'envolent. Lucky est une magicienne.
Une magicienne.
Pareil que sa maman.
Oui,
elle transforme.
Elle transforme.
Le méchant. Le roi encore. Et organisé
au château
et pour le mariage que tu prennes et que Nagui.
Voilà.
Bien. Eh bien, écoutez, merci de cette illustration, hein, très parlante de ce que vous nous avez dit aussi, bien sûr, mais on comprend tout à fait avec ce petit film vraiment ce que vous faites là, conjointement avec ces deux équipes, hein, et puis avec la joie de ces enfants. Hein, c'est vraiment ça aussi qui est important.
On n'a pas parlé quand même du partenariat qu'on veut maintenant mettre sur papier avec le CROP. Parce qu'on s'est rendu compte que ben, finalement, nous, on avait aussi des outils liés à notre à ce qu'on sait faire depuis des années en IME avec des enfants atteints neurologiquement. Et que parfois, le CROP est face à des cas un peu hybrides, un peu... voilà. Donc, on s'est dit, est-ce que nos deux spécificités pourraient pas à un moment se rencontrer autour de certains cas ? Donc, on est en train de voir... sous quelle forme, des ateliers temporaires, des interventions. Bon, on ne sait pas, mais on en est à ce stade-là. C'est quand même important de le dire.
D'autant que Yazid est en phase là, d'être orienté vers un établissement adulte, et tout le monde a tellement gagné à intégrer ce nouvel outil de communication qu'on ne voudrait surtout pas que ça s'arrête pour les prochains.
Bien, vous avez sûrement des questions, des remarques par rapport à cette expérience tout à fait... original. On connaissait un peu avec d'autres enfants le LPC. Hein. Bon, mais là, c'est tout à fait intéressant. Voilà. Et quand Yacine va partir, il y aura d'autres enfants du CROP qui vont...
Là, nous, on a une à peu près en classe, j'ai 5 enfants qui utilisent cette langue-là. Et on va dire on a au moins une dizaine d'enfants, voire 15 sur l'établissement qui sont intéressés par la langue des signes. Donc on a déjà des gens sur place qui... Enfin, on ne veut vraiment pas maintenir un outil s'il n'est pas utile, hein, mais on a vraiment des retours et des besoins. Donc pour l'instant, maintenant du CROP, pour l'instant, on n'aura pas d'autres enfants. On va voir.
Et pourquoi ne pas faire une classe commune avec... hein? Je sais pas.
Volontiers.
Non, enfin, je... Oui, je vous en prie, oui, au contraire.
Moi, je suis le directeur du CROP. Et il y a quelques mois, c'était au printemps dernier, j'avais rencontré mon collègue directeur de l'IME. Je passe dans les couloirs. Et puis, il y a un gamin en fauteuil qui arrive et qui me dit... Ça, c'est un ami, qui tu es toi? Et il me demande ça en langue des signes, un gamin, un de ces enfants-là. Je me suis dit, il y a vraiment quelque chose qui se passe dans cet établissement et que ça fonctionne vraiment. Et vous l'avez témoigné en disant qu'il y a des gamins qui avaient ouvert un champ de communication qu'ils n'avaient pas auparavant. Hein. Oui, donc votre idée est bonne.
Oui.
Donc, je suis Valérie Antonioli, je travaille au CROP, je suis responsable du secteur Nîmois. Et donc, effectivement, Clarisse, Pauline et moi, on a commencé à réfléchir à comment maintenir ce partenariat de manière peut-être plus soutenue, pas que autour de la langue des signes, puisqu'on se rend compte aussi qu'au niveau des outils pédagogiques, il y a des choses qui peuvent être, à l'inverse, qu'on pourrait transférer, nous, pour des enfants sourds avec des troubles associés. Et aussi, on a pensé, par exemple, pour des enfants qui ont le syndrome de charge ou des enfants CMV, pour qui le regard d'un ergothérapeute qui a l'IME La Cigale pourrait évaluer les besoins en termes d'outils, de contenants, enfin, etc. Donc voilà, on essaye vraiment sur des formations mutualisées aussi, voilà, dans les deux sens. Donc on réfléchit, après c'est dans les mains des directeurs.
Peut-être pour élargir un petit peu le propos, on a été amené aussi à répondre un peu dans la même situation pour un adulte sourd qui était accueilli dans un ESAT, donc qui vivait une situation d'isolement. Donc on est venu enseigner des rudiments de langue des signes au personnel de l'ESAT. Et on a eu les mêmes effets, c'est-à-dire qu'ils se sont rendus compte que c'était extrêmement pertinent pour des adultes en situation complexe de communication. Il y a une ouverture qui se faisait là. Donc on vérifie sur le terrain que ce mode de communication qui semblait réservé à un public sourd, en fait, aurait un intérêt tout à fait pertinent pour des personnes en situation complexe de communication. Donc on est vraiment dans ce sens-là.
Et je voudrais juste aussi dire que d'un point de vue peut-être un peu plus psy, on s'est rendu compte que là, les enfants s'appropriaient quelque chose et qu'ils étaient acteurs, demandeurs et qu'ils devenaient des sujets décideurs. Et on parle beaucoup d'autonomie, on voudrait que l'enfant soit autonome, on voudrait qu'il prenne... Et là, ils ont pris les devants et on a eu parfois des adultes qui, n'étant pas savants, bloqués et disaient « Ah ben non, moi je ne comprends pas, moi je... » Et se sentaient d'un coup destitués un petit peu de leur autorité. Et en fait, ils étaient là devant une démonstration d'autonomie et de mise un petit peu à niveau. Et donc, du coup, il y a eu aussi un peu des débats là-dessus. Je ne maîtrise pas, mais c'est peut-être très bien que je ne maîtrise pas en tant qu'adulte ce qui se passe. Donc, je reçois aussi l'autre un petit peu comme un égal. Et ça m'a beaucoup intéressée de constater ça. Donc, j'ai aussi des demandes à d'autres niveaux, beaucoup plus précises des enfants.
Parce que là, ils ont construit cette histoire pour Yacine.
On fabriquait des dessins animés. Et voilà, c'était dans un atelier dessins animés. Mmh. C'est-à-dire que comme après, le fait que ça soit la langue de Yazid, c'est devenu un peu anecdotique. C'était la deuxième langue pratiquée à l'IME et en classe, quoi. Mmh. Voilà. Ça aurait pu être l'anglais, l'espagnol.
Oui.
Ça aurait moins bien marché.
Oui.
Ça nous donne des idées, peut-être. Bon, dans d'autres situations, des enfants en difficulté de communication. Parce que là, ce qu'on remarque quand même sur le film, moi, je voudrais insister, c'est cette joie et ce plaisir à communiquer, hein, des autres enfants qu'ils n'avaient pas, peut-être, non, je ne sais pas, sans cette...
Tout à fait. Ben, on a aussi du plaisir à communiquer. C'est pareil.
Bon, je voudrais demander à Monsieur Bugarel, qui me dit, mais quand Yazine est venu au CROP, il a dit, mais il ne signe pas dans cette... qu'est-ce qui s'est passé alors?
Alors, il y a plusieurs choses. C'est vrai qu'effectivement, le niveau scolaire n'est pas très élevé. Donc, il faut trouver des moyens pour l'adapter, hein, adapter aux problèmes moteurs que l'on peut rencontrer. C'est pour ça qu'il a été orienté en IME, pour avoir des outils et un environnement adapté, hein, une pédagogie adaptée, etc. Et après, moi, je suis que professeur de langue, D'accord. donc je ne peux que lui donner les bases, les images. Je m'appuie sur des supports comme ça, des vidéos que je peux donner sur l'ordinateur ou ce genre de choses. C'est oui, ça passe par des outils, notamment la vidéo. Je ne sais pas si j'ai bien répondu.
Si,
c'est...
tout à fait. Oui, c'est...
Juste, effectivement, pardon, depuis un an, El Yazid va à l'internat du CROP une fois par semaine. Il s'avère que les enfants qui sont à l'internat, d'abord nous avons un enfant dysphasique à l'internat, donc pour le coup, lui, il signe pas, et les autres enfants ont des surdités sévères et ils sont plutôt dans l'oralisation. Ça s'est trouvé comme ça. Voilà. Donc c'est vrai qu'au départ, la demande d'El Yazid, c'était aller à l'internat du CROP pour rencontrer d'autres jeunes sourds de son âge et signer avec eux. Bon, ben, il n'y a qu'une partie qui a pu, pour laquelle on a pu répondre. Mais voilà, ça s'est trouvé juste comme ça. Sinon, on signe au CROP. Hein.
Non, c'est... voilà, c'est ce que je voulais entendre. Oui. Je voudrais toujours poser une question aussi. Est-ce que vos élèves avancent bien, là, vos deux élèves en langue des signes? Non.
Elles ont leur cours. Moi, je leur apporte juste un soutien et puis je ne vais pas non plus les contrôler, voir si je ne vais pas les corriger non plus. Je leur donne juste un peu de vocabulaire uniquement. Voilà, ça s'arrête là.
Ouais. Vous avez à un moment donné posé le problème de l'identité de ce garçon. Donc, une nuit, il est sourd, une autre nuit, il a une autre. Comment il... Alors, vous nous en avez dit quelques mots, mais comment il le vit, ça, ce garçon, sur cette identité un peu particulière?
Lui, il se vit vraiment comme sourd.
Comme sourd, d'accord. Alors,
en fait, il se trouve que dans l'IME, il est plutôt moins handicapé moteur que la plupart des autres. Donc, vraiment, sa particularité, ce qu'il vit comme sa particularité, c'est sa surdité. Donc, il ne se voit pas autrement que comme un adulte sourd dans un établissement avec d'autres sourds. D'accord. Voilà, ça fait partie de lui.
Bien sûr.
Puis, il a une compréhension qui s'élabore petit à petit, je pense, comme une personne sourde. Moi, je découvre aussi, hein, mais je vois bien qu'il place les mots différemment, parce que nous, c'est quand même pas naturel chez nous non plus. Hein, donc, voilà. Il nous guide parfois un petit peu en rencontrant, j'en rencontre un petit peu des sourds à l'extérieur de mon travail, mais pas beaucoup. Je vois bien qu'il y a des façons d'exprimer certaines situations qui sont propres à cette langue. Voilà. Et lui, naturellement, les choses se font. Et puis aussi grâce à Frédéric, mais... voilà. Après, ce que je voudrais rajouter, peut-être pour terminer, c'est que c'est pas non plus les bisounours, hein, cette expérience, parce que on est quand même, on marche un petit peu sur des œufs au niveau de l'équipe, parce que c'est toujours difficile d'apporter un nouvel outil et sans être trop militant, sans imposer trop les choses aux gens. En plus, ça demande un apprentissage, donc tout le monde n'est pas égal face à l'apprentissage. Ça peut provoquer des réactions un peu de rejet, etc. Donc là, on est un peu à une charnière. En tous les cas, on n'a rien imposé. Ça a été simplement sur l'envie que ça s'est fait jusqu'à présent. Et on va voir un petit peu comment les choses se évoluent. Mais il y a des lieux dans l'IME où ça n'est pas du tout utilisé par les adultes, quoi. Voilà, donc on va voir. Je pense que vous devez aussi avoir ce genre de problème avec les pictos et tout ça. Et c'est très, comment dire, stratégique. Hein. Nous, on n'a pas la solution, hein, si vous en avez.
Je pense aussi que ce garçon, vous le mettez en position un peu de valorisation quand même par rapport aux autres. Et que ça renforce aussi peut-être son, hein, sa prise d'identité. Oui.
Alors moi, je voulais intervenir parce que je vis un peu la même chose dans le fait de la transmission de la langue des signes que je mets en place au sein d'un groupe d'enfants que j'accompagne. Et le fait de l'étendre à l'équipe, je me suis rendu compte que des fois, vouloir mener de front et essayer de transmettre son engouement, son volontariat et tout ce qu'on veut. Des fois, tout simplement, maintenant, avec le temps, je me rends compte qu'à force de signer en permanence, c'est un espèce de bain de langage où les gens sont finalement nourris dedans. Et au fur et à mesure, on se rend compte que même les plus réfractaires, à force d'être noyés dedans, ils finissent par les faire tout seuls. Donc voilà, c'est peut-être là aussi la solution.
En fait, c'est comme ça que ça se passe, parce que souvent, les enfants l'utilisent spontanément auprès de tous les adultes. Et puis, un adulte va arriver en me disant, il m'a dit un truc, mais alors ça, je sais, mais ça, je sais pas. Est-ce que tu peux voir avec lui? Bon, voilà, donc finalement, ça contourne. Après, ce que j'ai mis en place de mon côté en classe, c'est que je suis seule en classe. Je n'ai pas une personne, une AVS avec moi en permanence. C'est un choix que j'ai fait. Et donc, j'accueille par moment un peu différents personnels. Alors, je trouve un autre prétexte. Je dis, voilà, lui, il a besoin d'aide. Est-ce que tu pourrais venir? Et c'est souvent des moments où on signe. Donc, il y a un bain qui se fait, et voilà. J'ai un peu contourné le truc, donc la personne vient effectivement m'aider, mais en même temps, elle profite aussi de ça, et j'ai repéré un éducateur par groupe. Bon, avec les rééducateurs, c'est plus simple, mais voilà. Ça a été ma petite ruse.
Bien, ben, écoutez, on vous remercie encore hein, pour cette expérience tout à fait originale. Eh bien, écoutez, ainsi se termine cet après-midi. Hein, on va se souhaiter à tous un bon spectacle et puis une bonne soirée festive. En tout cas, merci aussi de votre présence, de vos questionnements, etc. Puis on se donne rendez-vous donc à tout à l'heure. Merci.